Fumée, chapitre 5. Monsieur Goubariov, chez lequel j'ai eu tout à l'heure le plaisir de vous voir, commença-t-il, ne m'a pas nommé. Si vous le permettez, je vais le faire moi-même. Je m'appelle Patougine, conseiller de cour en retraite. J'ai servi à Pétersbourg, au ministère des Finances. J'espère que vous ne trouverez pas étrange. Je n'ai généralement pas l'habitude d'aborder ainsi les gens, mais avec vous... » Ici, Patougine resta court et pria le garçon d'apporter un petit verre de kirsch. « Pour prendre courage, » ajouta-t-il en souriant. Litvinov examina avec une attention redoublée ce dernier personnage et se dit aussitôt « Celui-ci n'est pas comme les autres. » En effet, il était fort différent. C'était un homme aux larges épaules, avec un grand buste sur de courtes jambes, une tête tout ébouriffée, des yeux très intelligents et très mélancoliques, ombragés par d'épais sourcils, une bouche régulière, de mauvaises dents et un de ces nez foncièrement russes, que l'on appelle communément « pomme de terre ». Il paraissait maladroit, sauvage, mais évidemment ce n'était pas un homme ordinaire. Il était vêtu sans recherche. Une large redingote l'enveloppait comme un sac, et sa cravate était de travers. Loin de prendre en mauvaise part sa subite confiance, Litvinov en fut secrètement flatté. Il était évident que cet homme n'avait pas coutume de converser ainsi avec des inconnus. L'impression qu'il fit sur Litvinov était singulière. Il lui inspirait à la fois de l'estime, de la sympathie, et une sorte de compassion involontaire. « Je ne vous dérange donc pas » répéta-t-il d'une voix douce, un peu enrouée, qui allait on ne peut mieux à toute sa figure. « Comment donc ? » repartit Litvinov. « Je suis au contraire charmé. » « Vraiment ? Eh bien, moi aussi. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je connais vos occupations et vos intentions. Je les approuve. » Il n'est pas étonnant que ce soir vous soyez demeuré silencieux. Il me semble que vous n'avez pas beaucoup parlé, vous non plus, répondit Litvinov. Patougine soupira. D'autres s'en sont chargés. J'écoutais. Eh bien, ajouta-t-il après un moment de silence, relevant ses sourcils d'une façon comique. Comment avez-vous trouvé notre tour de Babel? Une tour de Babel? C'est admirablement bien trouvé. J'avais continuellement envie de demander à ces messieurs pourquoi ils se donnent tant de peine. Patougine soupira de nouveau. Le plus drôle est qu'ils n'en savent rien eux-mêmes. Naguère, on les aurait appelés des instruments aveugles d'une force supérieure. Mais par les temps qui courent, nous nous servons d'épithètes plus énergiques. Remarquez que je ne les accuse de rien. Au contraire, ils sont tous, du moins presque tous, d'excellentes personnes. Je sais par exemple sur Madame Soudkantchikov des choses qui lui font honneur. Elle a donné son dernier sou à ses deux pauvres nièces. Supposons que le désir de poser y entre pour quelque chose, ce n'en est pas moins, il faut l'avouer, une action louable pour une femme qui n'est pas riche. Il n'y a pas un mot à dire sur M. Pitchalkin. Avec le temps, les paysans de son district lui offriront certainement une coupe d'argent en forme de melon d'eau, peut-être une icône de son saint patron. Il leur répondra qu'il n'a pas mérité un tel honneur, et pourtant il l'aura parfaitement mérité. Votre ami, M. Bambaïev, a un cœur d'or. Il est vrai que, pareil au poète Yazykov, qui dit-on célébrait le vin et l'oisiveté sans quitter les livres et ne buvant que de l'eau, son enthousiasme n'a pas de but déterminé, mais il ne s'enthousiasme pas moins. Monsieur Voroshilov est également un brave homme. Comme tous les hommes de son école, premier au tableau d'honneur, il traite la science et la civilisation comme s'il était leur aide de camp. Il est phraseur jusque dans son silence, mais il est encore si jeune. Ils sont tous d'excellentes personnes, mais en fin de compte, il n'en sort rien. Les ingrédients sont de première qualité et on ne peut pas avaler une bouchée du plat. » Litvinov écoutait attentivement Potougine. Sa manière de s'exprimer, sans précipitation et avec assurance, révélait en lui un homme qui possédait l'art comme le goût de l'éloquence. En effet, il aimait et savait parler. Mais, comme un homme chez qui l'expérience a détruit la vanité, il attendait pour cela, avec une quiétude philosophique, une occasion qui lui convint. « Oui, oui, » reprit-il d'un ton qui lui était particulier, triste sans être amer. « Tout cela est fort étrange, et voilà encore ce que je vous prierai de remarquer. Que 10 Anglais, par exemple, se réunissent. Ils entameront tout de suite la conversation sur le télégraphe sous-marin, sur l'impôt, sur le coton, sur la possibilité de tanner les peaux de souris, c'est-à-dire sur quelque chose de positif, de déterminé. Mettez ensemble 10 Allemands. Aussitôt entreront en scène le Schleswig-Holstein et l'unité de l'Allemagne. Avec 10 Français, quelques efforts qu'ils fassent eux-mêmes pour l'éviter, il vous faudra immanquablement entendre disserter sur le beau sexe. Que 10 Russes s'assemblent, immédiatement jaillit la question. Vous avez pu aujourd'hui vous en convaincre, de l'importance et de l'avenir de la Russie, dont ils vont chercher l'origine jusque dans les œufs de Léda. Ils pressent, ils sucent, ils ruminent cette malheureuse question comme font les enfants de la gomme à mâcher, et avec le même résultat. Ils ne savent pas l'évoquer, bien entendu, sans critiquer aussitôt l'Occident pourri. Il nous bat sur tous les points, cet Occident, et il est pourri. Encore, si réellement nous le méprisions. Mais tout cela n'est que mensonge. Nous crions après lui, et nous ne pouvons nous passer de son approbation. Que dis-je? De l'approbation des gandins de Paris. Je connais un brave homme, père de famille, d'un certain âge, qui fut 3 jours au désespoir parce que, se trouvant dans un restaurant parisien, il demanda une portion de beefsteak aux pommes de terre, tandis qu'un Français authentique disait à côté de lui « Garçon, beefsteak pommes !» Mon ami faillit en mourir de honte, puis il cria partout « Beefsteak pommes !» et enseigna aux autres cette façon de s'exprimer. Même les lorettes s'étonnent de l'infini respect avec lequel nos jeunes propriétaires terriens entrent dans leur méprisable salon. « Mon Dieu » pense-t-il, « où suis-je? Mais chez Anna des Lions en personne !»« Dites-moi, s'il vous plaît, » demanda Litvinov, « à quoi vous attribuez l'incontestable influence de Goubariov sur tous ceux qui l'entourent? À ses talents? À ses qualités? Non, il n'en a pas. » « Absolument pas. »« C'est donc à son caractère. »« Il n'en a pas davantage. »« Mais il a beaucoup de volonté. »« Et ce n'est pas chez nous autres Slaves ce qui abonde le plus. » »« Monsieur Goubariov s'est mis dans la tête d'être chef de parti, et il l'est devenu. »« Que voulez-vous? Le gouvernement nous a débarrassés du servage. »« Grâce lui en soit rendue. » Mais la servilité s'est ancrée trop profondément en nous pour que nous puissions rapidement nous en délivrer. En tout et partout, il nous faut un maître. La plupart du temps, ce maître est un être vivant. Parfois, c'est un certain penchant, comme par exemple, en ce moment, la manie des sciences naturelles. Pourquoi? Quel motif nous pousse à nous assujettir ainsi volontairement? C'est un mystère. Telle est, paraît-il, notre nature. L'important est que nous ayons un maître, et il ne fait jamais défaut. Nous sommes de vrais cerfs. Notre fierté comme notre bassesse sont serviles. Vient un nouveau maître, à bas l'ancien. Hier c'était Jacques, aujourd'hui c'est Thomas. Vite, une gifle à Jacques et tous à plat ventre devant Thomas. Souvenez-vous de tout ce qui s'est passé en ce genre. Nous nous faisons gloire de savoir lutter, mais au lieu de nous battre en hommes libres, avec l'épée, nous combattons en laquais, à coups de poing, et encore, n'en donnant qu'autant que le maître le permet. De plus, nous sommes un peuple mou. Il n'est pas difficile de nous mener. Voilà comment M. Goubariov est parvenu au haut de l'échelle. Il a toujours frappé au même endroit et il a fini par percer. On voit un homme ayant une haute opinion de lui-même et confiance en lui, qui ordonne, qui dirige, et c'est là l'essentiel. On se dit qu'il doit savoir ce qu'il fait et qu'il faut l'écouter. Tous nos schismes, toutes nos sectes sont nés de cette façon. Le premier qui attrape un bâton devient le chef. Les joues de Potouguine avaient rougi peu à peu et ses yeux s'étaient voilés. Cependant, quelque dures que fussent ses paroles, on n'y percevait aucun ressentiment, mais plutôt une vraie et sincère tristesse. « Comment avez-vous fait la connaissance de Goubariov ?» demanda Litvinov. « Je le connais depuis longtemps, et voyez encore une de nos bizarreries. Voilà un écrivain qui a passé sa vie à tonner en vers et en prose contre l'ivrognerie et à flétrir la ferme de l'eau-de-vie. Un beau jour, il achète 2 distilleries et loue 100 de cabarets. Ailleurs, on le balayerait de la surface de la terre. Chez nous, on ne lui fait même pas un reproche. Il en est ainsi de M. Goubariov. Il est slavophile, démocrate, socialiste, tout ce que l'on veut. Mais son bien est encore régi par son frère, un seigneur à l'ancienne mode, de ceux qu'on surnommait « dentiste ». Cette même Madame Soudkantchikov, qui se réjouit de ce que Madame Becherstov a souffleté tant Elieyev, rampe presque devant Goubariov, dont tout le mérite consiste à faire croire qu'il lit des ouvrages savants et recherche en toute la profondeur. Vous avez pu juger aujourd'hui s'il est éloquent. C'est encore heureux qu'il ne sache que marmotter. Quand il est en belle humeur, il se met à raconter de vilaines petites anecdotes cyniques, au point que, pour patient que je sois, je n'y peux tenir. Et avec quel misérable ricanement il raconte tout cela, notre grand Goubariov. Êtes-vous patient ? Interrogea Litvinov. Je supposais le contraire. Mais permettez-moi de vous demander votre prénom et votre patronyme. Potouguine but une gorgée de kirsch. Je m'appelle Sozonte Ivanitch. On m'a donné ce nom charmant en mémoire d'un archimandrite de mes parents, auquel je ne dois pas autre chose. Je suis, si je puis m'exprimer ainsi, de lignée sacerdotale. Quant à ma patience, vous avez tort d'en douter. J'ai servi 22 ans sous mon oncle, le conseiller d'État Irinarque Potouguine. L'avez-vous connu ? Non. Je vous en félicite. Non, vraiment, je suis un homme patient. Mais revenons au sujet, comme le dit mon respectable confrère, l'archiprêtre Avakoum, celui-là même qu'on a brûlé sous le tsar Théodore. Nos compatriotes, monsieur, ne cessent de m'étonner. Tous se lamentent, errent avec une mine affligée, et en même temps tous sont pleins d'espérance. Voyez les slavophiles auxquels M. Goubariov se dit affilié. Ce sont d'excellentes gens, et pourtant il y a chez eux le même mélange de désespoir et d'outrecuidance. Ils ne vivent que du mot « avenir ». Tout viendra à son heure, mais en réalité rien ne vient, et durant 10 grands siècles, la Russie n'a rien inventé, ni dans le domaine de la politique, ni dans celui des arts, ni dans celui de la science, ni même dans celui de l'industrie. Mais attendez, prenez patience, tout viendra. Pour quelle raison, permettez-moi de m'en informer? Tout simplement parce que nous, hommes civilisés, ne sommes bons à rien. Le peuple, en revanche, Oh, le peuple est grand. Voyez ce moujik, c'est de lui que tout viendra. Toutes les idoles sont détruites. Donnons notre foi au moujik. Mais s'il ne répondait pas à nos espérances, il y répondra, soyez-en assurés. Lisez Madame Kokanovski et remerciez le Seigneur. En vérité, si j'étais peintre, voici le tableau que je peindrais. Un homme civilisé se tient devant un moujik et, le saluant très bas, lui dit « Guéris-moi, mon petit père, je meurs de maladie. » Le moujik, à son tour, salue humblement l'homme civilisé et lui dit « Éclairez-moi, mon seigneur, je péris faute de lumière. » Aucun des deux, bien entendu, ne bouge d'une semelle. Il nous faudrait pourtant une humilité, une résignation véritable, pas seulement en paroles. Il faudrait emprunter à nos frères aînés ce qu'ils ont inventé, mieux que nous et avant nous. Garçon, Noschein Glaschenkirch, ne croyez pas que je sois un ivrogne, mais l'alcool me délivre la langue. Après ce que vous venez de dire, dit en souriant Litvinov, je n'ai plus besoin de vous demander à quel parti vous appartenez, ni quelle est votre opinion sur l'Europe. Potouguine releva la tête. Je l'admire sincèrement, et ne crois nullement nécessaire de le cacher. Depuis longtemps. Non, depuis peu de temps, j'ai cessé de craindre d'exprimer mes opinions. Du reste, vous n'avez pas non plus hésité à dire votre manière de voir à M. Goubariov. J'ai cessé, grâce à Dieu, de me conformer aux opinions de celui avec lequel je discute. En réalité, je ne connais rien de pis que cette inutile poltronnerie, cette lâche complaisance qui veut qu'un homme d'État se fasse chez nous tout petit devant le premier petit étudiant venu, en le méprisant au fond de son cœur. On use de ces subterfuges par désir de popularité. Mais nous, simples mortels, n'avons pas besoin de recourir à de tels expédients. Oui, je suis un occidentaliste. J'ai foi en l'Europe. Ou, pour parler plus exactement, j'ai foi en la civilisation. En cette civilisation qu'on dénigre tant actuellement chez nous. Je l'aime de tout mon cœur. J'y crois. Et je n'aurai jamais d'autre amour ou d'autre espérance. Ce mot de « civilisation » est compréhensible, pur et sacré, tandis que tous les autres, honneur, patrie, puent le sang, qu'ils aillent au diable. Et la Russie, Sozon Ivanitch, votre patrie, l'aimez-vous? Je l'aime passionnément et je la déteste. Litvinov haussa les épaules. Vieille idée, Sozon Ivanitch, lieu commun. Eh bien, le grand malheur, il n'y a pas là de quoi vous effrayer. Un lieu commun. Je connais une quantité d'excellents lieux communs. La liberté et l'ordre, en voilà d'immortels. Leur préféreriez-vous par hasard, comme chez nous, la hiérarchie et le désordre? Et puis, est-ce que toutes ces phrases qui enivrent tant de jeunes cervelles, la bourgeoisie méprisable, la souveraineté du peuple, le droit au travail, ne sont pas également des lieux communs? Quant à ce qui est de l'amour, inséparable de la haine... Byronisme, s'écria Litvinov, romantisme des années 30. Vous vous trompez. Le premier à avoir signalé cette ambivalence du sentiment est Catulle, le poète romain Catulle, il y a 2000 ans. Je lui ai fait cet emprunt car je sais un peu de latin. Par suite, si je puis m'exprimer ainsi, de mon origine cléricale. Oui, j'adore et j'exècre ma Russie, mon étrange, grande, abominable et chère patrie. Je viens de l'abandonner. Il faut se rafraîchir un peu après être resté 12 ans assis à un bureau. J'ai abandonné la Russie et me trouve fort bien ici. Mais je prendrai bientôt le chemin du retour, je le sens. La terre des jardins est bonne, mais la mûre sauvage ne saurait y pousser. « Il vous est agréable d'être ici, de même qu'à moi, » dit Litvinov. « J'y suis venu pour étudier, mais cela ne peut m'empêcher d'y observer de tristes choses. » En disant cela, il montrait deux lorettes autour desquelles tournaient et grasseyaient quelques membres du Jockey Club, et la salle de jeu encore pleine de monde, malgré l'heure avancée. « Ne pensez pas que je sois aveugle, » répliqua vivement Potouguine. « Seulement, excusez-moi, votre observation me rappelle les tirades triomphantes de nos malheureux journalistes pendant la campagne de Crimée, sur les défauts d'administration de l'armée anglaise que dénonçait le Times. Je ne suis pas optimiste. Toute notre vie, toute cette comédie, avec sa fin tragique, ne m'apparaît pas en rose. Mais pourquoi rendre le seul Occident responsable de ce qui tient peut-être à une originelle faiblesse? Cette maison de jeu est dégoûtante, il est vrai, mais nos Grecs, nos filous indigènes, sont-ils plus jolis? Non, cher Grégoire Mikhaïlovitch, soyons plus humbles et moins sévères. Un bon élève peut voir les erreurs de son maître, mais il garde sur elle un silence respectueux, parce que ses erreurs mêmes lui sont utiles et renferment un enseignement salutaire. Si vous tenez absolument à conspuer l'Occident et sa décadence, prenez le prince Coco qui passe là-bas si vite. Il vient probablement d'engloutir en un quart d'heure sur le tapis vert les loyers de 150 familles gagnés avec tant de peine. Il est agacé. Et puis je l'ai vu ce matin feuilleter chez le libraire une brochure de Veuillot. Vous aurez là un charmant interlocuteur. Permettez, dit précipitamment Litvinov en voyant Potouguine se lever. Je connais très peu le prince Coco et préfère sans nul doute votre conversation. Je vous suis très reconnaissant, reprit Potouguine en s'inclinant. Mais voilà déjà longtemps que je cause avec vous. Ou plutôt que je parle tout seul, et vous avez peut-être vous-même remarqué qu'on finit par avoir un peu honte de son bavardage quand on ne reçoit pas de réplique. Cela va bien ainsi pour une première rencontre. Au revoir. Je vous le répète, je suis charmé d'avoir fait votre connaissance. Mais attendez, Sozon Ivanitch, dites-moi où vous demeurez et combien de temps vous comptez rester ici. Cette question sembla l'embarrasser. « Je resterai bien encore une semaine à Baden. Nous nous retrouverons ici, chez Weber ou chez Marx. Je pourrai aussi passer chez vous. »« Quoi qu'il en soit, je voudrais savoir votre adresse. »« Oui, mais voilà ce qu'il y a. Je ne suis pas seule. »« Vous êtes mariée ? » ?»« Quelle idée ! Comment peut-on parler ainsi sans réfléchir ? » ?»« Non. » Mais j'ai avec moi une jeune personne. Ah, fit Litvinov sur un ton d'excuse. Elle n'a que 6 ans, ajouta Potouguine. C'est une orpheline, la fille d'une dame, d'une amie proche. Il vaut mieux que nous nous rencontrions ici. Adieu. Il enfonça son chapeau sur sa tête ébouriffée et s'éloigna rapidement vers l'allée de Lichtenthal. Chapitre 6. Singulier personnage, pensait Litvinov en regagnant son hôtel. Il faudra le retrouver. Il entra dans sa chambre. Une lettre était sur sa table. C'est de Tania, se dit-il avec joie. Mais la lettre venait de la campagne, de son père. Litvinov brisa un épais cachet armorié et se disposait à lire. Lorsqu'il fut frappé par une odeur pénétrante, très agréable, qui ne lui était pas inconnue. Il se retourna et aperçut sur la fenêtre, dans un verre, un bouquet d'héliotropes. Litvinov le considéra non sans surprise, le toucha, le sentit. Cela lui rappelait vaguement quelque chose de très éloigné. Mais qu'était-ce? Il ne pouvait le déterminer. Il sonna le domestique et lui demanda d'où venaient ces fleurs. Le domestique lui répondit qu'elles avaient été apportées par une dame qui avait refusé de se nommer et avait seulement dit que Herr Zuitenhof devinerait certainement par ses fleurs qui elle était. » Litvinov sembla de nouveau se souvenir de quelque chose. Il questionna le domestique sur la tournure de cette dame. Elle était grande, élégamment vêtue et portait un voile. « Ce doit être une comtesse russe, » ajouta le garçon. « Pourquoi le supposez-vous ? Elle m'a donné 2 florins. » Litvinov le renvoya et resta ensuite longtemps devant la fenêtre à réfléchir. Il finit enfin par s'impatienter et reprit la lettre de la campagne. Son père y répandait ses plaintes habituelles. Il l'assurait que le blé ne se vendait à aucun prix, que les paysans n'obéissaient plus et qu'apparemment on approchait de la fin du monde. « Imagine-toi, disait-il entre autres choses, qu'on a envoûté mon dernier cocher. Il serait certainement mort si de braves gens ne m'avaient conseillé de l'envoyer à Riazan, chez un prêtre connu pour ses remèdes contre le mauvais sort. La cure a réussi, en effet, on ne peut mieux. En foi de quoi, j'inclus ici la lettre même du prêtre pour en attester. » Litvinov la parcourut avec curiosité. Elle rapportait que Nicanor Dmitriev avait été frappé d'une maladie que la médecine était impuissante à guérir. De mauvaises gens la lui avaient subrepticement inoculée, et Nicanor en avait lui-même avoué la raison. Il n'avait pas tenu une promesse faite à une jeune fille. Celle-ci avait donc prié certains individus de le rendre impropre à tout. Et si le prêtre n'était pas venu à son aide en cette occurrence, il aurait immanquablement péri, comme un ver. Confiant dans l'œil de celui qui voit tout, le prêtre s'était porté garant de sa vie, à la suite de quoi tout s'était mystérieusement arrangé. Le prêtre demandait à son correspondant de tout faire pour que cette jeune fille ne s'occupe plus désormais de pareilles choses, quitte à employer la menace, car elle pouvait encore mettre en péril le malheureux Nicanor. Litvinov se mit à rêver sur cette lettre qui lui rappelait la morne solitude des steppes, l'existence sourde et sombre qu'on y menait, et il lui sembla admirable de lire justement cette lettre à Baden. Cependant, minuit était sonné depuis longtemps. Litvinov se mit au lit et éteignit la lumière, sans pouvoir s'endormir. Les visages qu'il avait vus, les discussions qu'il avait entendues, tournoyaient dans sa tête brûlante. Tantôt résonnaient à son oreille les grognements de Goubariov, et il croyait voir ses yeux de taureau avec leur regard fixe, entêté. Tout à coup, ses mêmes yeux s'animaient, pétillaient, et il reconnaissait la Soutantchikov, entendait sa voix chevrotante et murmurait involontairement après elle « elle a donné un soufflet !» C'était ensuite la figure originale de Potouguine qui se présentait devant lui, et il se rappelait, pour la 10e et la 20e fois, chacune de ses paroles. Comme un diable de sa boîte, Voroshilov sautait subitement, sanglé dans son paletot comme dans un uniforme. Plus loin, Pitchalkin secouait gravement sa tête bien peignée, pleine de bonnes intentions. Là-bas, Bindassov vociférait, jurait. Ici, Bambaïev était hors de lui, tout en larmes. Par-dessus tout, cette odeur lourde, douceâtre, accablante, ne lui laissait aucun repos et semblait redoubler dans l'obscurité, lui rappelant avec de plus en plus d'insistance quelque chose qu'il ne parvenait pas à retrouver. Il se souvint que le parfum des fleurs est malsain dans une chambre à coucher. Il se leva, saisit à tâtons le bouquet et le plaça dans la chambre voisine. Mais là encore, l'obsédante odeur parvenait jusqu'au lit, se répandant sous les draps dont il avait enveloppé sa tête, et il se tournait avec angoisse d'un côté puis de l'autre. Il commençait à être en proie à la fièvre. Déjà le prêtre, connu pour ses remèdes contre le mauvais sort, lui avait 2 fois barré le passage, sous la forme d'un lièvre portant une longue barbe et de petites tresses, perché sur un colossal panache de général, comme il l'aurait été sur un arbre, Vorochilov, devenu rossignol, commençait à chanter. Lorsque, se dressant sur son lit et se frappant les mains, il s'écria « Serait-ce elle ? Ce n'est pas possible !» Mais pour expliquer cette exclamation de Litvinov, nous sommes obligés de prier le lecteur de vouloir bien retourner avec nous quelques années en arrière. Chapitre 7. En 1850, vivait à Moscou, dans une situation touchante à la misère, la nombreuse famille des princes Ossinine. Ce n'étaient pas des Tatars ou des Géorgiens, mais de vrais princes russes, descendants de Riourik, en ligne mâle directe et légitime. Leurs noms se rencontrent fréquemment dans nos annales, au temps des premiers grands princes de Moscou. Ils possédaient de vastes domaines, avaient plus d'une fois reçu des terres en récompense de leur vaillance et siégeaient au conseil des boyards. Méchamment accusés de sorcellerie, ils tombèrent en disgrâce. On les ruina sans merci, on leur enleva leurs titres, on les exila au loin, et une fois la maison des Ossinine abattue, rien ne put lui rendre sa puissance première. Avec le temps, le séquestre sur ses biens-fonds fut levé. On lui restitua ses biens mobiliers à Moscou, mais appauvrie, desséchée. Elle ne se releva ni sous Pierre Ier ni sous Catherine II. Déclinant sans cesse, elle comptait déjà parmi ses membres des régisseurs, des tenanciers de débits de boissons et des commissaires de police. La branche dont nous avons à nous occuper se composait du mari, de la femme et de 5 enfants. Elle végétait, non loin de la place aux chiens, dans une maisonnette de bois sans étage, avec un perron sur la rue peint en 2 couleurs. Des lions verts au-dessus de la porte et d'autres fantaisies aristocratiques. C'est à grand-peine qu'elle joignait les 2 bouts, achetant à crédit chez l'épicier, se passant souvent l'hiver de bois et de chandelles. Le prince était un homme mou et borné. Autrefois, dans sa jeunesse, il avait passé pour un dandy, un élégant. À présent, il était complètement affaissé. Moins par considération pour son nom que par égard pour sa femme, ancienne demoiselle d'honneur, on l'avait doté d'une sinécure et d'un petit traitement. Il n'avait d'ailleurs rien à faire, et tuait le temps, en robe de chambre, à fumer en poussant des soupirs. La princesse était une femme malade, chagrine, exclusivement occupée des détails du ménage, du placement de ses enfants dans des établissements d'État et du maintien de ses relations avec ses amies pétersbourgeoises. Jamais elle n'avait pu se résigner à sa position et à son éloignement de la cour. Le père de Litvinov avait fait la connaissance des Ossinine quand il habitait Moscou. Il fut à même de leur rendre quelques services. Il leur prêta une fois 300 roubles. Le fils, étant étudiant, les visitait souvent. Il logeait tout près de leur maison. Mais ce n'était pas la proximité de ce voisinage qui l'attirait, et encore moins la pauvreté de leur existence. Il commença à fréquenter régulièrement les Ossinine à partir du moment où il tomba amoureux de leur fille aînée, Irène. Elle venait d'avoir 17 ans et sortait à peine de l'institut, d'où sa mère l'avait retirée à la suite d'un désagréable épisode survenu avec la directrice. Irène devait réciter au curateur, dans une séance publique, un compliment en vers français, lorsqu'on lui préféra au dernier moment une autre demoiselle, fille d'un riche fermier des Eaux-de-Vie. La princesse ne put pas digérer cet affront. Irène elle-même ne pardonna pas à la directrice son injustice. Elle avait songé longtemps comment, tous les yeux étant braqués sur elle, elle se lèverait, prononcerait son discours, et comment tout Moscou ensuite parlerait d'elle. Moscou se serait en effet probablement occupé d'Irène. Elle était grande, bien faite, quoique son buste, un peu creux, fût surmonté d'étroites épaules. Elle avait une peau d'un blanc mat, rare à son âge, pure et lisse comme la porcelaine, des cheveux blonds et épais, dont quelques mèches étaient plus claires que les autres. Admirablement régulier, les traits de son visage n'avaient pas encore tout à fait perdu cette expression de candeur inhérente à la première jeunesse. Mais, dans l'inclinaison nonchalante de son beau cou, dans son sourire mi-languissant, mi-distrait, on devinait une nature nerveuse. Et dans ses lèvres minces, s'entr'ouvrant à peine, dans ce nez aquilin et bien proportionné, il y avait quelque chose de résolu, de passionné, quelque chose de dangereux pour les autres et pour elle-même. Ses yeux gris foncés à reflets verdâtres, longs et voilés comme ceux des divinités égyptiennes, avec des cils rayonnants, des sourcils altiers et fins, avaient réellement quelque chose de fascinant. L'expression de ses yeux était étrange. Il semblait regarder au loin, inlassablement, avec mélancolie. À l'Institut, Irène était considérée comme une des meilleures élèves pour son intelligence, mais elle avait un caractère inconstant, autoritaire et fantasque, ce qu'on nomme une mauvaise tête. Une de ses maîtresses lui avait prédit que ses passions la perdraient. « Vos passions vous perdront !» Une autre lui reprochait en revanche sa froideur glaciale et l'appelait « une jeune fille sans cœur ». Les camarades d'Irène la trouvaient hautaine et secrète. Ses frères et sœurs la redoutaient. Sa mère n'avait nulle confiance en elle, et son père ne se sentait pas à l'aise lorsqu'elle fixait sur lui son regard énigmatique. Mais elle n'en inspirait pas moins à ses parents un involontaire sentiment de respect, non point pour ses capacités, mais pour je ne sais quel vague espoir qu'elle faisait naître en eux. « Tu verras, Praskovi Danilovna, » dit un jour le vieux prince, lâchant un moment sa pipe. « Irène nous tirera d'affaire. » La princesse se fâcha et répondit à son mari qu'il avait des expressions insupportables. Puis elle se prit à rêver et dit entre ses dents « Oui, ce ne serait pas mal si nous pouvions sortir de l'ornière. » Irène jouissait dans la maison paternelle d'une liberté presque sans limite. On ne la gâtait pas, on l'évitait un peu, mais on ne la gênait en rien. C'était là tout ce qu'elle désirait. Quand il se passait une scène par trop humiliante, lorsqu'un marchand venait crier qu'il était là de réclamer ce qu'on lui devait et que les domestiques se joignaient à lui pour abreuver leur maître d'injures honteuses, leur reprochant de n'avoir plus les moyens d'être ce qu'ils prétendaient, Irène ne fronçait pas même le sourcil, ne bougeait pas de sa chaise, mais un méchant sourire glissait sur son visage devenu sombre. Et pour ses parents, ce sourire était plus amer que toute espèce de reproche. Ils se sentaient coupables, coupables malgré eux, vis-à-vis de cet être qui semblait avoir eu droit dès sa naissance à la richesse, au luxe et à tous les hommages. Litvinov s'éprit d'Irène aussitôt qu'il la vit. Il n'avait que 3 ans de plus qu'elle. Mais pendant longtemps, il ne put parvenir ni à gagner sa sympathie, ni seulement à attirer son attention. On aurait dit qu'il l'avait offensée, qu'elle conservait profondément le souvenir de cette offense sans pouvoir la lui pardonner. Il était alors trop jeune et trop timide pour comprendre ce qui pouvait se cacher sous cette irritation, sous cette dédaigneuse rigueur. Souvent, oubliant ses leçons et ses cahiers, il s'asseyait dans le salon délabré des Ossinines et jetait à la dérobée un regard sur Irène. Son cœur se remplissait d'une lente et pesante amertume. Et elle, l'air fâché et ennuyé, se levait, traversait la chambre, le regardait froidement comme s'il avait fait partie du mobilier, haussait les épaules et croisait les bras. Ou bien, durant toute une soirée, elle affectait de ne pas le regarder, même en s'adressant à lui, lui refusant l'aumône d'un coup d'œil. Ou enfin, elle prenait un livre et ne le quittait plus, fronçait le sourcil, se mordait les lèvres, puis tout à coup demandait à haute voix à son père ou à son frère comment dire « patience » en allemand. Il essaya de sortir de ce cercle enchanté où il s'épuisait en vain, comme un oiseau pris au piège. Il quitta Moscou pendant une semaine. Mais il faillit en devenir fou de désespoir et d'ennui, et revint chez les Ossinines, tout pâle et défait. Par une singulière coïncidence, Irène avait aussi notablement maigri pendant son absence. Son visage avait un peu jauni, ses joues s'étaient creusées. Elle ne l'en accueillit pas moins avec un redoublement de froideur, se faisant une joie maligne de la lui bien marquer, comme s'il avait encore augmenté la mystérieuse offense dont il s'était rendu coupable envers elle. Elle le tourmentait ainsi depuis 2 mois, lorsque tout vint à changer. L'amour éclata comme un incendie, se répandit comme une pluie d'orage. Un jour, il se souvint longtemps de ce jour, il était de nouveau assis à une fenêtre dans le salon des Ossinines, regardant sans but dans la rue. Un cruel dépit le rongeait. Il se méprisait lui-même et ne pouvait pourtant pas s'arracher de sa place. Si une rivière avait coulé sous la fenêtre, il se serait élancé dedans avec horreur, mais sans regret. Irène se plaça non loin de lui et se tint immobile, en silence. Depuis plusieurs jours déjà, elle ne lui avait soufflé mot et n'avait du reste parlé à personne. Elle demeurait assise, les bras croisés, paraissant indifférente à tout ce qui se passait dans la maison, promenant lentement autour d'elle des regards étonnés. Ce supplice finit par n'être plus supportable. Litvinov se leva et, sans prendre congé, se mit à chercher son chapeau. « Restez !» dit tout à coup Irène à voix basse. Litvinov tressaillit. Il ne reconnut pas cette voix tout d'abord. Quelque chose d'extraordinaire s'était révélé dans ce seul mot. Il leva la tête et demeura stupéfait. Irène le regardait avec tendresse. « Restez !» répéta-t-elle. « Ne vous en allez pas, j'ai à vous parler. » Et baissant encore la voix, « Ne partez pas, je le veux. » Sans rien comprendre, sans se rendre compte de ses mouvements, il s'approcha d'elle, lui tendit la main. Elle lui donna les siennes, puis sourit, se leva brusquement, se détourna, et sans cesser de sourire, sortit de la pièce. Au bout de quelques minutes, elle revint avec sa sœur cadette, lui jeta de nouveau un long regard et le fit asseoir à côté d'elle. Elle ne put d'abord rien dire. Elle soupirait et rougissait. Prenant enfin courage, elle le questionna sur ses occupations, ce qui ne lui était jamais arrivé. Le soir, elle s'excusa à plusieurs reprises de n'avoir pas su l'apprécier jusqu'à ce jour, l'assura qu'elle était devenue tout autre, le surprit par des saillies républicaines. Il vénérait à cette époque Robespierre et n'osait pas condamner tout à fait Marat. Et une semaine après, il savait qu'il était aimé. Oui, il se souvint longtemps de ce premier jour, mais il n'oublia pas non plus ce qui suivirent, pendant lesquels, s'efforçant encore de douter et craignant de croire, il voyait grandir et s'avancer irrésistiblement ce bonheur inattendu. Vinrent alors les instants merveilleux du premier amour, qui ne peuvent et ne doivent se répéter dans une seule et même vie. Irène était soudain devenue douce comme l'agneau, flexible comme la cire et d'une parfaite égalité d'humeur. Elle se mit à donner à ses jeunes sœurs des leçons, non de piano, n'étant pas musicienne, mais de français et d'anglais. Elle lisait avec elle, s'intéressait au ménage, tout l'amusait et l'occupait. Tantôt elle bavardait sans arrêt, tantôt elle s'enfonçait dans une muette méditation. Elle faisait 1000 plans, se lançait dans des suppositions infinies sur ce qu'elle ferait quand elle se marierait à Litvinov. Il ne doutait pas que cette union se réalisât. « Nous travaillerons tous deux », lui soufflait Litvinov. « Oui, nous travaillerons », répétait Irène. « Nous lirons, mais surtout nous voyagerons. » Elle souhaitait principalement quitter Moscou au plus vite. Et lorsque Litvinov lui faisait observer qu'il n'avait pas achevé son année à l'université, elle répondait chaque fois, après avoir réfléchi un moment, qu'il pouvait la terminer à Berlin ou quelque part ailleurs. Irène n'était pas embarrassée dans l'expression de ses sentiments, de sorte que son inclination pour Litvinov ne demeura pas longtemps un mystère pour le prince et la princesse. Ils ne s'en réjouirent pas, mais, vu les circonstances, ils ne jugèrent pas nécessaire d'opposer immédiatement leur veto. Litvinov avait de la fortune. « Mais la famille !» remarquait la princesse. « Certainement, la famille !» répondait le prince. « Mais ce n'est pourtant pas un roturier. Et d'ailleurs, Irène ne nous écoutera pas. Est-il jamais arrivé qu'elle n'ait pas fait ce qu'elle voulait ? Vous connaissez sa violence. D'ailleurs, il n'y a rien encore de résolu. » Ainsi raisonnait le prince, mais mentalement il ajoutait « Madame Litvinov tout court. Je m'attendais à mieux que cela. » Irène s'était complètement emparée de l'esprit de son fiancé. Celui-ci, il faut l'avouer, n'avait rien fait pour s'y opposer. Un torrent l'entraînait. Il n'avait plus le sentiment de ce qu'il faisait. Il ne regrettait, ne ménageait rien. Quels sont les devoirs du mariage? Lui serait-il possible d'être bon mari en étant entièrement soumis à Irène? Quel bonheur pourrait-elle lui offrir? Il lui était impossible de réfléchir froidement à ces questions. Son sang bouillonnait. Il ne savait qu'une chose, aller après elle, avec elle, en avant, toujours, et advienne que pourra. Cependant, malgré la docilité de Litvinov et la tendresse exaltée d'Irène, des malentendus et des froissements ne tardèrent pas à se faire jour. Il accourut une fois chez elle, sortant directement de l'université, en redingote râpée, les mains pleines d'encre. Elle alla à sa rencontre avec son empressement habituel et tout à coup s'arrêta. « Vous n'avez pas de gants ? » dit-elle en appuyant sur chaque mot avant d'ajouter « Fille, que vous êtes étudiant !»«
Vous êtes trop impressionnable !» remarqua Litvinov.
« Vous êtes un véritable étudiant » répéta-t-elle. « Vous n'êtes pas distingué !» Lui tournant le dos, elle sortit de la chambre. Il est vrai qu'une heure après, elle le suppliait de lui pardonner. En général, elle reconnaissait facilement ses torts. Seulement, elle s'accusait de défauts qu'elle n'avait pas et contestait opiniâtrement ceux qu'elle avait bel et bien. Une autre fois, il la trouva tout en larmes, la tête dans les mains et ses tresses défaites. Hors de lui, il l'interrogea sur le motif de son chagrin. Elle lui montra du doigt sa poitrine, et Litvinov tressaillit. « Elle est poitrinaire, » se dit-il, et lui saisissant la main. « Tu es malade ? » demanda-t-il d'une voix tremblante. Il se tutoyait déjà lors de circonstances exceptionnelles. « Je cours chercher le docteur. » Irène ne le laissa pas achever, et frappant du pied avec dépit, « Je suis très bien portante, mais cette robe, est-ce que vous ne comprenez pas ? »
« Qu'est-ce ? Cette robe, je ne saisis pas. »
« Ce qu'il y a, c'est que je n'en ai pas d'autre, qu'elle est vieille, laide, et que je suis obligée de mettre cette robe chaque jour. Même quand vous venez, tu finiras par ne plus m'aimer en me voyant si déguenillée. »
« De grâce, Irène, que dis-tu ? Cette robe est charmante, et elle m'est d'autant plus précieuse que c'est celle que tu portais la première fois que je te vis. »
Irène rougit. « Ne me rappelez pas, je vous prie, Grégoire Mikhaïlovitch, que déjà alors je n'avais pas d'autre robe. »
Mais je vous assure, Irène Pavlovna, qu'elle vous sied à ravir. Non, elle est affreuse, horrible, répétait-elle en tirant nerveusement sa longue et soyeuse chevelure. Oh, quelle pauvreté, quelle obscurité! Comment se délivrer de cette pauvreté? Comment sortir de cette obscurité? Litvinov ne savait que dire. Il s'éloigna quelque peu. Tout à coup, Irène sauta de sa chaise et, posant ses deux mains sur ses épaules, elle approcha de lui son visage. Ses yeux, encore humides, étincelaient de bonheur. « Mais tu m'aimes! Tu m'aimes, n'est-ce pas? Même avec cette abominable robe !» Litvinov se jeta à ses genoux. « Ah ! » murmura-t-elle. « Aime-moi, mon ami, mon sauveur !» Les jours s'écoulaient ainsi. Les semaines passaient, et bien qu'aucune discussion formelle n'ait eu lieu, bien que Litvinov ajournât toujours sa demande, attendant un ordre d'Irène, celle-ci lui avait fait un jour observer qu'ils étaient ridiculement jeunes et qu'il convenait d'ajouter quelques semaines à leurs années. Tout cependant touchait à un dénouement. Leur proche avenir se dessinait de plus en plus nettement. Lorsque, advint un événement qui dissipa tous ses plans, comme le vent emporte la poussière sur les grands chemins. Chapitre 8. Cet hiver-là, la cour vint à Moscou. Ce n'était qu'une succession de fêtes qui se terminèrent par l'habituel grand bal à l'assemblée de la noblesse. La nouvelle en parvint, sous forme d'une annonce dans la gazette de police, jusqu'à la petite maison de la place aux chiens. Le prince fut le premier à s'en émouvoir. Il décida immédiatement qu'il fallait y aller et y conduire Irène, qu'il serait impardonnable de laisser échapper cette occasion de contempler ses souverains, et qu'il y avait là une sorte de devoir pour la vieille noblesse. Il insista là-dessus avec une chaleur qui ne lui était pas ordinaire. La princesse, qui était jusqu'à un certain point de son avis, n'était préoccupée que de la dépense. Mais Irène s'opposa formellement à ce projet. « C'est inutile, je n'irai pas », répondait-elle à tous les arguments de ses parents. Son entêtement prit de telles proportions que le vieux prince se décida à prier Litvinov de tâcher de la persuader, de lui faire comprendre qu'il ne convenait pas à une jeune fille de fuir le monde, qu'il fallait subir cette épreuve, alors que déjà personne ne la voyait nulle part. Litvinov se chargea de lui exposer ses raisons. Irène le considéra si fixement qu'il en fut troublé. Puis, jouant avec les bouts de sa ceinture, elle répondit tranquillement « C'est vous? Vous qui désirez cela ?»«
Oui, je suppose, » balbutia Litvinov. « Je suis de l'avis de votre père. Et pourquoi n'iriez-vous pas voir le monde et vous montrer ?»
ajouta-t-il avec un naïf sourire. « Me montrer ? » répéta-t-elle lentement. « C'est bien, j'irai. Souvenez-vous seulement que c'est vous qui l'avez désiré. »«
C'est-à-dire, je... » commençait Litvinov.
Elle lui coupa la parole. « C'est vous-même qui l'avez désiré. » Et voici encore une condition. Promettez-moi que vous ne serez pas à ce bal.
Mais pourquoi?
Parce que je vous le demande. Litvinov fit avec peine un geste de consentement.
Je me soumets, mais je l'avoue, il m'aurait été bien agréable de vous voir dans toute votre splendeur, d'être témoin de l'impression que vous produirez certainement. Comme j'aurais été fier de vous.
Ajouta-t-il en soupirant. Irène sourit. « Toute cette splendeur consistera en une robe blanche, et quant à l'impression... Enfin, je veux, en un mot, que cela soit ainsi. »«
Irène, serais-tu fâchée ?»
Irène sourit de nouveau.
« Oh non, je ne me fâche pas, seulement tu... »
Elle fixa sur lui ses yeux, et il lui sembla qu'il ne leur avait jamais encore vu pareille expression.
« Peut-être est-ce nécessaire ? » ajouta-t-elle à demi-voix.
« Mais, Irène, tu m'aimes ?
Je t'aime, lui répondit-elle avec solennité en lui pressant fortement la main. Les jours suivants furent exclusivement occupés par les préparatifs de toilette et de coiffure. La veille du bal, Irène se sentit mal à l'aise. Elle ne pouvait rester en place. Elle pleura deux fois à la dérobée. Devant Litvinov, elle avait un sourire contraint, toujours le même. Du reste, elle fut gracieuse avec lui, comme à l'habitude, mais elle était distraite et se regardait souvent dans la glace. Le jour du bal, elle était silencieuse, pâle, mais apaisée. À 9 heures, Litvinov vint la voir. Quand elle entra au salon, vêtue d'une robe de tarlatane blanche, une branche de petites fleurs bleues dans les cheveux, il poussa un cri, tant elle lui parut belle et majestueuse, bien au-dessus de l'âge qu'elle avait. « Elle a grandi depuis ce matin, » pensa-t-il, « et quelle allure ! Voilà pourtant ce qu'est la race !» Irène se tenait devant lui, les bras le long du corps, sans sourire ni minauder, les yeux fixés non sur lui, mais sur quelque chose au loin, droit devant elle. « Vous ressemblez à une reine de conte de fées, » dit enfin Litvinov, « ou plutôt à un général avant la bataille, avant la victoire. « Vous ne m'avez pas permis d'aller à ce bal ?» continua-t-il, tandis qu'elle demeurait toujours immobile et semblait attentive moins à ce qu'il lui disait qu'à je ne sais quelle voix intérieure. « Mais vous ne refuserez pas d'accepter de moi ces fleurs. » Il lui offrit un bouquet d'héliotropes. Elle jeta sur Litvinov un regard rapide, tendit la main et, saisissant l'extrémité de la branche qui ornait sa tête, lui dit « Veux-tu ? Un mot seulement, j'arracherai tout cela et je resterai à la maison. » Litvinov sentit son cœur bondir. Irène arrachait déjà la guirlande. « Non, non, pourquoi cela ? » dit-il précipitamment. « Je ne suis pas égoïste. Pourquoi te priver lorsque je sais que ton cœur... « Alors n'approchez pas, vous chiffonneriez ma robe, » répondit-elle à la hâte. Litvinov se troubla. « Vous prendrez le bouquet ? » demanda-t-il. « Sûrement, il est ravissant, et j'aime beaucoup son parfum. Merci, je le conserverai en souvenir. » « De votre première sortie, de votre premier triomphe. » Irène se regarda dans la glace par-dessus l'épaule de Litvinov, s'élevant à peine sur la pointe des pieds. « Suis-je vraiment si belle ? N'êtes-vous pas trop galant ?» Litvinov se confondit en louanges, mais Irène ne lui coûtait déjà plus, et approchant le bouquet de son visage, elle se mit de nouveau à regarder au loin, avec ses yeux étranges qui s'étaient assombris, agrandis, tandis que les bouts de ses rubans, soulevés par un léger souffle d'air, s'agitaient comme des ailes attachées à ses épaules. Le prince fit son apparition, en cravate blanche et habit noir râpé, le ruban de Saint-Vladimir de la médaille de la noblesse attaché à la boutonnière. À sa suite, entra la princesse en robe de soie chinée, taillée à l'ancienne mode. Avec cet empressement morose sous lequel les mères s'efforcent de cacher leur émotion, elle se mit à ajuster la jupe de sa fille, c'est-à-dire à y faire des plis sans aucune nécessité. Les roues d'une voiture de louage, traînées par deux haridelles à poils longs, se mirent à grincer sur la neige gelée près du perron. Un minuscule laquais, affublé d'une invraisemblable livrée, accourut de l'antichambre et annonça sur le ton du désespoir que la voiture était avancée. Après avoir béni les enfants qui restaient à la maison, le prince et la princesse, enveloppés de leur pelisse, se dirigèrent vers le perron. Irène les suivit en silence, à peine couverte d'un vilain petit manteau pour lequel il professait une haine implacable. En les reconduisant, Litvinov espérait attraper un regard d'Irène, mais elle s'assit dans la voiture sans daigner tourner la tête. Vers minuit, il passa sous les fenêtres de l'assemblée. Des rideaux rouges n'empêchaient pas les innombrables bougies d'éclairer toute la place,
encombrée d'équipages, et l'on entendait au loin les accords insolemment joyeux des valses de Strauss. Le lendemain, à 1 heure, Litvinov entra chez les Ossinine. Il ne trouva à la maison que le prince, qui lui annonça tout de suite qu'Irène avait mal à la tête, qu'elle était couchée et ne se lèverait pas avant le soir, ajoutant que cette indisposition n'était pas d'ailleurs extraordinaire après un premier bal. « C'est très naturel, vous savez, dans les jeunes filles, » ajouta-t-il en français, à l'étonnement de Litvinov, qui remarqua à ce moment que le prince n'était pas en robe de chambre, selon son habitude, mais en redingote. « Et comment, » poursuivit Ossinine, « ne pas tomber malade après les événements d'hier ?»«
Des événements ?» balbutia Litvinov.
« Oui, des événements, de vrais événements. Vous ne sauriez vous imaginer, Grégoire Mikhaïlovitch, quel succès elle a eu. Toute la cour l'a remarqué. Le prince Alexandre Fiodorovitch a dit que sa place n'était pas ici et qu'elle lui rappelait la comtesse de Devonshire, vous savez, la célèbre comtesse. Le vieux comte Blasenkrampf a déclaré hautement qu'Irène était la reine du bal et a exprimé le désir de lui être présentée. À moi aussi il a été présenté, c'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il se souvenait de m'avoir vu hussard et m'a demandé où je servais maintenant. Un homme très amusant, ce comte, et quel adorateur du beau sexe. Que vous dirais-je ? On ne laissait pas un instant de repos à mon épouse. Nathalie Nikitichna elle-même s'est entretenue avec elle. Que voulez-vous de plus ? Irène a dansé avec tous les meilleurs cavaliers. On m'en a tant amené que j'en ai perdu le compte. Imaginez-vous que tout le monde nous entourait. À la mazurka, ce n'est qu'elle qu'on choisissait. Un diplomate étranger, apprenant qu'elle était moscovite, a dit à l'empereur « Sire, décidément c'est Moscou qui est le centre de votre empire. » Un autre diplomate ajouta « C'est une vraie révolution, sire. Révélation ou révolution, quelque chose dans ce genre. Ouais, je vous assure, c'était quelque chose d'extraordinaire. »
Mais Irène Pavlovna, demanda Litvinov, dont les pieds et les mains se glaçaient pendant ce discours. S'est-elle amusée ? Paraissait-elle satisfaite ?
Certainement qu'elle s'est amusée. Il n'aurait plus manqué que cela qu'elle ne fût pas satisfaite. Du reste, vous le savez, on ne peut pas facilement savoir ce qu'elle pense. Tous me disaient hier « Comme c'est surprenant ! Jamais on ne dirait que mademoiselle votre fille en est à son premier bal. » Le comte Reisenbach, entre autres, vous le connaissez sûrement.
Non, je ne le connais pas et ne l'ai jamais vu.
Il est cousin de ma femme.
Je ne le connais pas.
C'est un Richard, un chambellan. Il vit à Pétersbourg. C'est un homme à la mode. En Livonie, il mène tout à sa guise. Jusqu'à présent, il ne se souciait guère de nous, mais je ne lui en veux pas. J'ai l'humeur facile, vous ne l'ignorez pas. Eh bien, ce comte Reisenbach s'est assis auprès d'Irène. Il n'a pas causé avec elle plus d'un quart d'heure, et il a dit ensuite à la princesse « Ma cousine, votre fille est une perle, c'est une perfection. »
Tous me félicitent d'avoir une telle nièce.
Après cela, je l'observe. Il s'approche d'un très, très haut personnage, lui parle sans quitter des yeux Irène, et le haut personnage la regardait aussi.
Ainsi, Irène Pavlovna ne se montrera pas de la journée ? Demanda de nouveau Litvinov.
Non, elle a un violent mal de tête. Elle m'a chargé de vous saluer et de vous remercier pour votre bouquet, qu'on a trouvé charmant. Elle a besoin de repos. La princesse est allée faire des visites, et moi aussi.
Le prince toussa, embarrassé d'avoir achevé son discours. Litvinov prit son chapeau, dit qu'il ne voulait pas le déranger, qu'il repasserait plus tard prendre des nouvelles, et se retira.
À quelques pas de la maison des Ossinines, il vit un élégant coupé s'arrêter devant la guérite d'un agent de police. Un laquais, dans une éclatante livrée, négligemment penché sur le siège, lui demanda où demeurait le prince Paul Vassilievitch Ossinine. Litvinov regarda dans la voiture. Elle était occupée par un homme d'environ 50 ans, de complexion sanguine, au visage ridé et arrogant, avec un nez grec et des lèvres méchantes, enveloppé d'une pelisse de castor, avec toutes les apparences d'un personnage occupant un poste élevé.